De retour sur les ondes de Canal Sud 92.2 avec Christian Bélinguier de Au Secours 31. Oui, tu voulais terminer cette émission en parlant d'un sujet, le tout tuyau.
C'est vrai que ça, c'est une question importante. Hein. Bon, on évoquait tout ce qui est la bétonisation, l'artificialisation des sols et tout ça. Mais il y a quelque chose qu'on ne considère peut-être pas à sa juste place aussi, c'est la question de la volonté de soumettre la nature quelque part. Et là, par rapport à l'eau, c'est très significatif, quoi. C'est-à-dire que depuis des dizaines d'années, on canalise l'eau, on rectifie les cours d'eau. Je parlais tout à l'heure du remembrement. Pendant le remembrement, en fait, on a modifié des cours d'eau carrément. On a supprimé des méandres, on les a fait passer ailleurs, on les a rectilignés. Et on fait un peu pareil dans la traversée de l'eau dans la ville. C'est-à-dire qu'on a mis des digues, creusé des chenaux, enfin, et avec la volonté de faire passer l'eau, de contraindre l'eau à passer là où on voulait. Dans la gestion des eaux de pluie, c'est pareil. On a mis des canalisations partout pour récupérer l'eau de pluie et la contraindre à passer où on voulait. Mais on se rend compte qu'avec l'accentuation de certains phénomènes et qu'on évoquait tout à l'heure, ben, l'eau, en fait, elle ne se laisse pas domestiquer comme ça et qu'il y a des débordements. Et il y a des initiatives qui se prennent, d'ailleurs, dans certains pays et avec certains acteurs qui sont extrêmement intéressantes à observer, y compris chez nous, d'ailleurs, maintenant. Mais donc, c'est important à citer aussi. Par exemple, il y a un gars qui, en Slovaquie qui s'appelle Mikhail Kravčík, qui a mis en place tout un travail sur des zones assez importantes au niveau territorial. C'est un travail en fait de repérage des zones potentielles de crue, enfin des passages où l'eau en situation de crue passait, pour essayer de faire que l'eau en fait elle trouve d'autres chemins et qu'elle puisse mieux rester sur les terres, sur les sols, là où elle est le plus utile, qu'elle puisse s'infiltrer au mieux, qu'elle puisse faire profiter la végétation de sa présence, etc. Et donc, en fait, son idée, c'était d'aller sur les territoires même. Donc, c'est un travail de terrain. Il est allé discuter dans les communes concernées. Il est allé voir les paysans, voir les gens qui connaissaient le coin et leur demander, mais quand il y a des crues, par où passe l'eau? Ils ont repéré ces endroits et sur ces endroits, ils ont établi des micro-retenues, en fait, avec des matériaux pris sur place, c'est-à-dire des troncs d'arbres, des branchages, des choses qui sont, en fait, des éléments naturels et qui étaient sur place. Et ils ont permis à l'eau, en fait, de décélérer. Hein, c'est extrêmement important. C'est la question, parce que de plus en plus, on s'aperçoit que la volonté de domestication des humains a accéléré le passage de l'eau, et ne lui permettant pas, en fait, d'accomplir tout ça, enfin de nous faire profiter de tous ses bienfaits là où elle est, et là où elle passe. En fait, ça aboutit au retour de petites zones, de micro-zones humides, enfin à des endroits où il y a des petites retenues, où l'eau prend son temps pour s'infiltrer et pour ensuite s'écouler, mais à un autre rythme. Et ça change tout. Hein, ça a complètement évité certaines crues torrentielles. C'est une expérience qui a été regardée par d'autres pays, puisque le modèle s'exporte notamment dans les pays nordiques. En fait, il y a Mikhail Kravčík, il va en parler un peu partout. Il a sorti un bouquin aussi avec d'autres pour parler de ce travail-là. Ça me permet de parler du travail que fait en France Baptiste Morisot, notamment avec la question de la réintroduction du castor et du travail à la manière des castors. C'est un peu pareil. Les castors, ils avaient un rôle autrefois essentiel dans la gestion des flux d'eau, et ils permettaient d'établir des zones humides, d'avoir des petites retenues par l'établissement de ces barrages, enfin d'avoir des zones dans lesquelles on parlait de biodiversité, où il y avait toute une biodiversité extrêmement riche qui se développait parce que l'eau prenait son temps, ouais, et restait. Hein, rester et s'infiltrer et permettait au sol de vivre autrement. Et ça, c'est vraiment un autre paradigme essentiel aussi. Et dans la traversée des villes, cette décélération, si bien je puis sûr dire, on doit la prendre en compte aussi.
Il y a un monde fascinant et qu'on a oublié et qu'on ne comprend pas et qui s'appelle une rivière. Et ce monde donne la vie dans les fonds de vallée. C'est lui qui nous permet de boire, c'est lui qui nous permet de cultiver. On l'a fragilisé, dégradé et oublié. Et c'est un monde qui est vivant et spatial et temporel. Depuis 8 millions d'années, la technique de coupe des castors génère des branches qui finissent en biseau. Les bâtons en biseau sont utilisés par les castors, on le sait très bien, pour enfoncer les extrémités dans la berge ou dans le matelas alluvial, de manière à donner de la robustesse à la structure. Donc c'est typiquement un point sur lequel on va imiter les castors.
Ici, on est dans un endroit qui nous tient profondément à cœur. C'est un petit morceau de rivière qu'on a contribué à guérir en explorant cette technique fascinante qui s'inspire des castors et des forces végétales pour redonner vie au cours d'eau, pour faire face aux turbulences qu'il y a avec le changement climatique. Il y a la prise de conscience que des alliances avec des puissances non humaines, qu'elles soient animales ou végétales, peut nous permettre de traverser la dureté des temps qui viennent en étant moins seuls.
Jusqu'à aujourd'hui, on avait des cours d'eau, par exemple, qui étaient cachés, qui étaient complètement dans des espèces de tunnels. Par exemple, il y a un cours d'eau qui traverse à Saint-Michel, qui est complètement canalisé, personne ne le sait quasiment. Il y a des visites, heureusement, le comité de quartier fait des visites autour de ça pour en parler. À Paris, il y a des parties de cours d'eau ou du canal Saint-Martin qui sont couvertes. Enfin bon, à Toulouse, il y avait la volonté de couvrir le canal du Midi à une époque pour en faire un passage de bagnole ou je ne sais pas quoi. Enfin bon,
un parking géant.
C'est important en fait de redonner à la traversée de la ville des cours d'eau toute leur place et toute leur valeur. Comme on a mis en valeur les berges de la Garonne à certains endroits, il y a besoin de considérer le passage de l'eau dans la ville comme autre chose que comme un danger ou un phénomène annexe. Et donc par rapport à ça, la gestion des inondations, justement, je parlais tout à l'heure des liens qu'il devait y avoir entre territoires, c'est important de considérer que ce qui arrive dans un endroit, souvent, est en gestation un peu plus haut. Et donc là, pour ce qui est des inondations, la disparition des zones humides, la disparition de ce qu'on appelle les zones d'expansion de crue, c'est-à-dire la possibilité à des endroits pour un cours d'eau de sortir de son lit, de s'étendre et de rester sur une zone plus large. Et ça décélère la crue, disons, et, enfin le flux, et ça permet d'amortir les effets dévastateurs des crues. Il y a donc la nécessité là, d'avoir des politiques territoriales qui s'articulent avec l'amont et l'aval. Et dans la traversée de la ville elle-même, par exemple, il y a un autre phénomène important, c'est la question de la gestion du pluvial, où il y a de plus en plus d'endroits où on déconnecte les eaux de pluie, en fait des réseaux pluviaux, où on essaie de les déconnecter pour permettre à l'eau justement de profiter de sa présence, et de nous faire profiter de sa présence sur les sols. Alors ça va être ce qu'on appelle la gestion des eaux à la parcelle, avec la possibilité de donner à l'eau la possibilité de s'infiltrer au maximum, de redonner dans des espaces ultra bétonnés, des espaces désimperméabilisés, de créer des cours oasis, des cours jardins, de créer des rigoles plantées pour permettre à l'eau de rester, d'aller moins vite. Il y a tout un tas de techniques maintenant qui sont utilisées dans certaines villes. À ce niveau-là, la ville de Lyon notamment, elle est assez exemplaire. Ils ont fait énormément de travail, notamment dans la désimperméabilisation. Ils ont un objectif de désimperméabilisation. Je crois qu'ils ont désimperméabilisé dans les 400 hectares de sol. Là, et ils ont un objectif de doubler s'ils étaient reconduits au prochain mandat. À Toulouse, je crois qu'il y avait un affichage de 4 hectares de désimperméabilisation. On voit bien que ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Et il faut faire attention sur ce plan-là aussi au fait que quand on désimperméabilise, si on a un affichage de désimperméabilisation à un endroit, si on bétonne deux fois plus d'hectares à côté pour créer de nouveaux espaces urbains, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est très systémique, c'est-à-dire que ces questions-là, il faut les prendre en compte globalement. Par exemple, à Lyon, quand ils ont mis en place leur politique de l'eau, ils ont fait en sorte que tous les acteurs qui intervenaient sur l'espace public dans Lyon, ils soient formés à la question de l'eau. Pas forcément des acteurs liés au problème de l'eau, dans les différents services qui intervenaient sur l'espace public. Et c'est assez centrale. C'est-à-dire que la question de l'eau n'est pas liée qu'à des spécialistes, elle est une question centrale pour l'ensemble des populations et l'ensemble des acteurs qui interviennent sur le champ de l'espace public. Le champ politique, c'est pas notre sujet au sens strict du terme politique. On n'est pas des acteurs électoraux, mais on est des acteurs politiques au sens où, pour nous, une politique de l'eau, c'est essentiel à prendre en compte, disons, quand on prétend gérer une municipalité, une métropole et un territoire, disons. On avait envie de proposer, en fait, un certain nombre de choses, d'essayer de faire que les acteurs sur le champ politique s'emparent au maximum de propositions, hein, plutôt que d'essayer de les prendre en défaut sur leurs propositions à eux. Mmh. Nous, on pense qu'on a des choses à dire, hein, notamment sur cette cohérence globale et sur ces différents champs qui interagissent quand on appréhende la question de l'eau dans ces différentes dimensions. Ce document qui a été l'objet d'un travail très important, hein, on y a travaillé plusieurs mois, en fait. Il nous semble fondateur, d'une certaine manière, pour nous aussi, en fait, hein, pour la poursuite de notre travail. Mmh. Il va nous permettre aussi de poser les choses de manière plus forte.
Ouais, puis c'est vraiment réjouissant de parler de décélération aussi.
Oui, ben c'est toujours pareil. Ouais, c'est vrai que dans ce monde qui semble, comment dire, mettre la vitesse sans cesse en avant à tous les niveaux, hein, la question de la 69, par exemple, en est totalement symptomatique. Hein. Bon, on veut construire, enfin, entre deux villes qui sont pas si distantes que ça, qui avaient déjà un axe qui était loin d'être saturé et loin d'être soumis à des embouteillages de grande ampleur. Là, il fallait aller encore plus vite. Donc, gagner quelques minutes. Donc, tout ça au prix d'une débauche de matériaux extraits, de zones artificialisées, d'eau mise à nu, sacrifiée, enfin de couloirs écologiques sacrifiés aussi, d'atteinte à la biodiversité, enfin j'en passe. Et bon, tout ça pourquoi au final, hein, on ne sait pas, c'est satisfaire à quelques acteurs sûrement importants pour le territoire en termes industriels, mais je pense que quand on regarde les choses de plus haut, on est loin du compte et loin de la hauteur des enjeux qu'il faudrait apprendre.
Dites-moi, où, en quel pays a perdu sa vie Rémi Fraisse? Est-ce en Syrie ou en Libye, ou si ça se trouve en Ukraine? Non, ce n'est pas en Palestine, au Mali ou même en Judée. C'est dans notre pays de France, pays des Lumières d'antan. Il luttait pour sauver la terre, Rémi avait 21 ans. Soldat qui lança la grenade, de sa mort tu es innocent. Le devoir d'un exécutant est d'obéir au commandant. Par contre, il n'en est pas de même pour ceux qui dans au fond semblant jurent par Dieu qu'ils aiment la terre, mais sont commandés par l'argent. Et pour lui, sont prêts à tout faire, même laisser tuer nos enfants.
On ne pouvait pas non plus terminer cette émission sans une pensée pour Rémi Fraisse, qui est, on peut le voir aussi comme une victime collatérale de ce combat pour l'eau, avec ce qui s'est joué dans le Tarn. Au Testet,
oui, tout à fait. Ben c'était, c'était une bataille, là aussi, qui montre que les pouvoirs se raidissent face à une contestation citoyenne. Enfin, aujourd'hui, je crois qu'il y a besoin de garder la mémoire de ces luttes-là et de ces acteurs-là qui ont, y compris là, dans le cas de Rémi, à sacrifier leur vie. Quoi. Et nous étions d'ailleurs à l'anniversaire, hein, de sa mort au Testé. C'était d'ailleurs très, très émouvant parce qu'il y avait pas mal de monde et on a fait tout un retour, disons, sur ces terres. Il y a eu des balades sur les terres pour voir comment évoluaient les zones et tout ça qui avaient pu être préservées. C'était pour nous très important d'être présents à ce moment-là aussi.
Rémi, tu entres dans l'élite de ceux qui ont en d'autres temps fait de ce pays des lumières d'antan. Rémi, tu entres dans ta terre qui est aussi celle de nos enfants. pour sauvegarder cette terre, tu donnas ta vie en luttant. Par ce refrain, je joins la mienne à la douleur de tes parents. Rémi, tu entres dans ta terre, qui est aussi celle de nos enfants. Pour sauvegarder cette terre, tu donnas ta vie en luttant. Par ce refrain, je joins la mienne à la douleur de tes parents.
Christian Bélinguier, merci. Tu veux rajouter quelque chose en guise de conclusion ?
Non, j'ai trouvé que c'était une émission très, très intéressante, qui m'a permis de développer pas mal des choses sur la durée, quoi. Et c'est vrai que c'est rare les espaces où on peut justement articuler les choses aussi dans leur complexité sans, j'espère, être abscon ou hermétique. J'espère qu'on a contribué aussi à informer et sans être non plus désespérant. Moi, je suis plein d'optimisme aussi dans la manière dont les gens peuvent s'emparer de sujets. Quand je vois sur les terrains de l'écologie et de l'environnement, malgré les effets de backlash qu'on a actuellement, qu'ils sont indéniables, je crois qu'il y a du ressort. Il y a beaucoup de jeunes qui sont engagés sur ces luttes avec une autre façon d'appréhender. On parlait de décélération, je crois que c'est très global ça, et on a beaucoup de jeunes qui s'interrogent sur leur manière de vivre, leur manière d'appréhender l'avenir et de construire leur rapport au réel, au vivant, à la réussite, y compris, et dans un autre, dans un autre rapport aussi, entre humains et entre espèces.
Eh ben, ce sera une belle conclusion. Merci infiniment pour avoir participé à cette émission. À très bientôt.
Oui, à bientôt.
Allez, au revoir.
J'adore entendre le gai flic-flac, le son joyeux de la goutte d'eau qui tombe et qui claque. Ce clapotis qu'en pizzicato font les petites flaques, c'est la romance de la pluie. Si quand il pleut mon cœur fait tic-tac, c'est que le jour je t'ai connu, l'eau tombe est un vrac. Aussi depuis j'ai mieux retenu qu'un air d'Offenbach cette romance de la pluie. Quand elle nous arrose, la rose fleurit, dont moi je suppose qu'elle fait épanouir notre amour aussi. Voilà pourquoi j'aime le flic-flac, le son joyeux de la goutte d'eau qui tombe et qui claque, puisque mon cœur fait comme un duo avec le tic-tac de la romance de la pluie. Voilà pourquoi j'aime le flic-flac, le son joyeux de la goutte d'eau qui tombe et qui claque, puisque mon cœur fait comme un duo avec le tic-tac de la romance de la pluie.